et David revient de Jérusalem. Alors bien qu'il ne soit pas d'usage, peut-être est-ce ici une création, un chidouche, que ce soit les élèves qui parlent au nom des maîtres et qui les présentent, je voudrais quand même dire combien la tenue de ces séminaires, combien leur existence, combien leur ancienneté maintenant est pour nous une source de réconfort et une source d'enrichissement. Tout ceci vous paraît d'une extrême banalité parce que c'est sans doute ce que vous ressentez et sans doute c'est ce que vous ressentez encore plus dans les jours actuels qu'auparavant pendant les longues années pendant lesquelles Manitou nous a enseigné. En effet, la pression à laquelle les Juifs sont soumis actuellement est d'une nature telle qu'il est difficile d'entrer dans une réunion juive sans avoir quelques instants, quelques moments, sinon de réflexion, tout au moins de pensée à ce qui se passe à l'extérieur. Il n'est pas question, entendons-nous bien, de mélanger ce qui est l'enseignement et ce qui est la vie quotidienne, celle qu'on lit dans les médias et qu'on entend, même quand elle nous déplaise. Manitou nous a enseigné suffisamment et pendant suffisamment longtemps que si on étudie la Torah et qu'on en essaye d'appréhender son enseignement, alors au moins qu'on la comprenne à la façon dont elle-même s'exprime, et non pas à la façon dont je voudrais qu'elle s'exprime pour moi, ou qu'elle ait un sens pour moi, ou pire que cela, que je m'en serve à la façon dont je voudrais qu'elle soit utile pour ma démonstration ou pour mon propos. Donc il n'est pas question de mélanger et ceci et cela. Il n'empêche que comme je l'avais demandé il y a 15 jours à Elie Wiesel, lors de sa conférence, à laquelle je crois beaucoup de vous tous étaient présents, il est difficile d'entrer dans une réunion juive sans voir et sans dire ce que nous pensons de ce qui se passe à l'extérieur de cette maison et plus particulièrement en Israël. Il est difficile en effet de passer devant des kiosques et de lire, comme on lit depuis hier, je crois, la publicité du Point, Israël survivra-t-il? Point d'interrogation. Israël survivra-t-il? C'est pas tolérable. Alors, de ceci en cela, on peut arriver, je crois, à des attitudes que malheureusement, on voit dans la presse, pas seulement dans la presse française, mais je crois aussi dans la presse américaine, tel juif pour, tel juif contre. Et bien entendu, les médias s'amuseront à opposer des juifs dont les personnalités sont tout à fait aussi estimables les unes que les autres. Je crois qu'il y a là une retenue à laquelle nous devons nous donner, nous a donné avec la plus grande rigueur. Premièrement, il n'y a pas de désunion dans la communauté juive et dans les communautés juives quant aux événements qui se déroulent actuellement en Samarie, Judée et à Gaza. Il n'y a pas de désunion. Et quelle que soit l'optique que chacun peut avoir, et c'est son droit, elle n'a pas de valeur opératoire en ce qui concerne la solution des problèmes qui, malheureusement, est seule entre les mains des Israéliens. Je dis malheureusement parce que c'est leur poids et pas le nôtre. Et vous me permettrez de terminer cette courte introduction sur un proverbe yiddish que beaucoup connaissent et qui situerait un peu les juifs de diaspora comme les Eitzesgeber, vous savez, ceux qui proposent aux autres des idées. Voilà des inventeurs d'idées, des ingénieurs d'idées, des fabricants d'idées. Eitzesgeber, c'est ceux qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils auraient dû faire pour que telle situation ne se produise pas à la façon, bien entendu, dont ils auraient envie que les choses se passent. Il y a là, je crois, une perversion à laquelle nous devons bien prendre garde. Et de faire de telle façon que, premièrement, nous honorions nos maîtres de leur présence et de leur enseignement, et que, deuxièmement, nous ayons aussi suffisamment de fidélité à la Torah pour l'écouter telle qu'elle est et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit pour nous. Je vous remercie.
Eh bien, effectivement, lorsque la programmation des trois séminaires de l'année a été faite, ce sujet, Israël et l'universel humain, dont le contenu est la catégorie familière à la Torah, à l'enseignement de la Torah, Israël et les nations, Israël et les goyim en hébreu, avait été déjà décidé bien avant les événements, comme il faut dire, contemporains. Et comme vient de le dire notre ami, notre président Bernard, il est quand même inévitable qu'il y ait un lien entre la l'actualité, la contemporanéité des événements, et ce sujet permanent qui, dès l'origine du récit de la Bible, du récit de la Torah concernant l'histoire humaine, est à étudier et, dans le renouvellement de l'étude, doit nous permettre de mieux comprendre ce caractère si spécifique, si particulier, si à part de l'histoire d'une identité humaine, celle d'Israël, et j'emploierai ce terme au début dans le sens le plus général, à travers le temps et l'espace, et ensuite, bien évidemment, dans le sens particularisé de la société israélienne contemporaine, qui présente deux dimensions d'identité qui font problème. Ces deux dimensions, c'est d'une part la tendance à l'universel et d'autre part l'identité spécifique définie de façon sui generis pour elle-même comme une manière d'être homme parmi les autres. Mais cette manière d'être homme que la Torah nomme Israël a ceci de particulier qu'elle pose un problème à la définition pas seulement sociologique, pas seulement philosophique, mais aussi théologique de la destinée de l'humanité. Comment se fait-il qu'existe au sein de l'humanité une nation, Israël, qui a eu l'histoire qu'elle a, j'y reviendrai, pour embrosser les grandes étapes par rapport à notre sujet, non pas écartelée, mais en tout cas tendue entre deux dimensions, à la fois différentes, mais complémentaires, j'essaierai de le montrer, et en quel sens, selon le récit de la Torah, la tendance à l'universel et la spécificité. Et je voudrais d'abord essayer de tenter une mise au point de vocabulaire de telle sorte qu'un certain nombre de fausses questions ou de faux problèmes soient écartés. Il ne faut pas confondre les termes de, si je dis religion, j'en expliquerai tout de suite à cause de la citation que je vais faire, les expressions religion universelle et religion universaliste. La tendance à l'universel définit pour la tradition juive une catégorie d'universalité, d'universalisme. Et je me réfère, je le dis directement, à une mise au point qu'avait faite le grand rabbin Jaïs, alors grand rabbin de Paris, non, déjà plus grand rabbin de Paris, mais il y a tellement d'événements que les souvenirs se mêlent, au moment de l'élection de Mgr Lustiger à la tête de, je ne sais plus comment on dit, l'archevêché de Paris. Ceci m'est revenu en mémoire, étant donné les prises de position récentes et le livre qui est apparu sous sa signature, et où il semble que de nouveau cette formule, l'aboutissement authentique du judaïsme ne peut se trouver que dans le christianisme, a réapparu dans son discours et pose les problèmes que vous présentez. Je crois que dans notre relation à l'univers chrétien, en tout cas, nous vivons une époque de problématiques extrêmement riches où il semble, cela semble être aussi parallèle, qu'il y ait deux dimensions différentes, espérons-le complémentaires, on peut le dire de façon banale, un pas en avant, deux pas en arrière, mais il y a des percées de deux côtés apparemment opposés. D'une part, un élan que nous sommes très nombreux à percevoir comme sincère vers une perspective de réconciliation et de lien honnête entre l'univers chrétien et le peuple juif et Israël, mais d'autre part, des prises de position diverses et très variées sur les problèmes politiques que nous vivons dans les temps contemporains, et en particulier cette déclaration qui semble poser un point d'interrogation à notre communauté. Et le grand rabbin Jaïs avait donc envoyé une communication qui m'a beaucoup impressionné à l'époque, qui avait paru dans Le Monde, pour faire une distinction entre ces notions de religion universelle et de religion universaliste. Je vais peut-être changer de terme. Je dirais tradition universelle et tradition universaliste. Et il a très bien montré que le christianisme, dès l'origine, s'est présenté comme une religion universelle, c'est-à-dire proposable à tous et, à la limite, suivant certaines circonstances historiques, imposable à tous. Mais qui, en tout cas, quels que soient les aménagements du discours théologique contemporain chez les théologiens chrétiens, se présente par rapport à la conscience juive de façon schématique comme pensant que le salut qu'elle propose à l'identité humaine dans sa destinée comprise en tant que destinée religieuse est exclusif, quelle que soit la manière dont on aménagera les rapports avec d'autres traditions religieuses, ce qui est très récent d'ailleurs, ce qui est très un phénomène de modernité radicale et absolue dans le discours théologique chrétien actuel. Le christianisme se présente donc comme une religion universelle, dans le sens que tous les membres de l'universel humain sont en principe et a priori candidats au christianisme selon la conscience chrétienne. Alors que, et je crois que cette mise au point du grand rabbin Jaïs nous a beaucoup éclairé, la tradition juive se présente comme universaliste, c'est-à-dire elle a une conception positive de la destinée de tout l'univers humain, non pas en dehors du judaïsme purement et simplement, mais selon le judaïsme qui, lui, est la religion d'Israël. La religion d'Israël comprend le sens de la destinée religieuse de toute manière d'être homme, le chrétien donc y compris, mais sans se présenter comme une religion universelle, s'imposant à l'universel humain, mais impliquant une conception universelle de la destinée positive de toute manière d'être homme. Je ne sais pas si cette citation, qui n'est pas littérale, du grand rabbin Jaïs est suffisamment claire, mais vous me permettrez, avant d'avancer dans l'analyse, de rappeler une anecdote que j'ai vécue en France il y a un certain nombre d'années, alors que j'étais invité à un congrès de théologiens chrétiens et dont le sujet était les miracles de Lourdes. Et je me trouvais à la tribune avec mes collègues, si j'ose dire, théologiens chrétiens, et on m'a posé la question, je ne crois pas qu'elle était insidieuse au début, « Monsieur le rabbin, croyez-vous dans les miracles de Lourdes ?» J'ai répondu « Oui ». Silence dans la salle. Et j'ai ajouté immédiatement, à une condition expresse, c'est que le cas miraculeux soit garanti par une commission ecclésiastique accompagnée de médecins et qui établissent, dans leur déconnaissance du temps, qu'il s'agit pour l'Église d'un véritable miracle. Alors le silence dans la salle s'est fait plus profond. Et j'ai ajouté ceci. Mais cela ne signifie pas, a priori, que le catholicisme, puisque Lourdes se relie plutôt au catholicisme qu'au reste des églises chrétiennes, quoi qu'il en soit, mais cela ne signifie pas a priori que je pense que le catholicisme soit vrai par rapport, il a sa vérité propre, mais par rapport à la vérité du judaïsme, sinon je ne serais pas dans la peau où je vis, je ne sais pas comment dire, mais ça signifie que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même catholiques. Là, je crois que le silence s'est fait un peu plus souriant. Ils étaient rassurés, le rabbin était resté juif. Mais c'est en tout cas pour indiquer qu'il y a véritablement une différence de perspective entre ces deux catégories, tradition, religion, conception de l'homme, universelle ou universaliste. Ceci pour dire que, par rapport à l'intitulé de notre sujet, Israël et l'universel humain doit être pensé dans la perspective universaliste et non pas universel dans le sens des catégories de la théologie chrétienne, et j'espère que cela est déjà suffisamment clair. Plus particulièrement, le sujet de l'exposé de ce soir a été formulé de la manière suivante: universalisme et cosmopolitisme. Je voudrais indiquer rapidement pour économiser du temps, que je vais essayer de considérer le cosmopolitisme comme étant le raté du rêve de l'universalisme, comme étant l'échec de la tendance à l'universalisme. Mais le contenu de l'analyse restera, et nous l'aurons présent à l'esprit pendant tout cet exposé, cette catégorie biblique qui ne peut pas ne pas apparaître comme polémique dans le sens strict et qui fait partie de l'habituel du vocabulaire juif, et très souvent les juifs ne prêtent pas suffisamment attention à ce caractère polémique. La catégorie Israël, les nations. Israël, un tout petit peuple à travers l'histoire du monde, et il aurait peut-être été plus nombreux si son histoire n'avait pas été celle que les nations lui ont faite, mais même beaucoup plus nombreux une manière très particulière d'être homme, avec l'enrichissement de sa diaspora intérieure, si j'ose dire, de ses différentes manières d'être à l'intérieur de l'identité Israël, mais c'est un univers très précis par rapport à, d'autre part, l'ensemble de l'humanité. Israël, les nations. Nous sommes tellement, en milieu juif, habitués à la familiarité de cette expression que très souvent nous ne percevons pas son caractère polémique. Imaginons la réaction de conscience à travers l'histoire et quelles que soient les compréhensions de sympathie que la pensée humaine peut avoir pour un fait qui est ce qu'il est, l'impact d'Israël dans l'histoire de l'humanité depuis l'origine. Essayons d'imaginer la réaction de conscience d'une pensée qui se situe en dehors de notre familiarité et qui se demanderait quel terme employer pour définir cette prétention d'orgueil, d'impertinence, il y aurait une catégorie aussi évidente pour la conscience juive, les juifs d'un côté, le monde entier de l'autre. Lors même que parfois des événements historiques mettent en évidence le fait qu'il en est ainsi dans la réalité. Je pense par exemple à ce qui s'est passé dans les grands temps de crise où les juifs se sont retrouvés seuls face à l'humanité. Le filigrane le plus évident est la Shoah, mais il n'est pas le seul. Quelle que soit, bien entendu, la communion, c'est intentionnellement, j'emploie un terme chrétien, d'un très grand nombre d'individus dans le monde avec le sort d'Israël dans ses péripéties dont la Shoah n'est qu'un exemple. Il s'agissait d'un ensemble d'individus et quel que soit le nombre d'un ensemble d'individus n'est pas l'ensemble humain. Il est arrivé souvent dans notre histoire que l'humanité s'est retrouvée unanime à sa manière face à cette catégorie qui est une catégorie biblique. Pour la confirmer, ne serait-ce que par un certain vote historique à l'ONU, Israël d'un côté, les nations de l'autre. Et quelle est l'origine de cette catégorie? Et l'introduction que je vous proposerai ce soir à ce point de l'analyse, et nous aurons l'occasion dans les études du matin sur texte de reprendre et d'élargir les différents points de l'exposé, se trouve essentiellement indiquée dans le chapitre 11. De la Genèse. Et brièvement, j'indiquerai l'essentiel de ce que nous transmet comme information à ce sujet le premier verset de ce chapitre 11, mais pour l'éclairer. Et que le récit que la Torah nous donne de l'histoire humaine fait allusion à une période où l'humanité a connu de façon réelle positive l'expérience de l'universel humain. Nous nous situons dans un temps historique qui est le temps des nations. La charnière historique entre la période où l'humanité, selon le récit biblique, avait connu la réalité de l'universel humain, qui pour nous depuis n'est plus qu'un idéal, une exigence, et j'y reviendrai plus en détail, la charnière entre cette première partie de l'histoire de l'homme, selon le récit biblique, l'universel humain existait concrètement, et comment la Torah le décrit-elle, et le temps des nations, où apparaît l'histoire d'Israël au sein et du dedans de l'ensemble des nations, c'est le récit connu de la manière la plus familière, sous le titre de « Le récit de la tour de Babel ». Avant Babel, l'humanité était une, et l'universel n'était pas seulement une exigence idéale, mais une réalité concrète, selon le récit biblique. À l'épisode raconté par la Bible et qui est connu sous le titre de la tour de Babel, cette unité a éclaté. La première remarque que je voudrais mettre en évidence, c'est que dans la généalogie des différentes nations issue de cet éclatement de l'unité humaine préalable, primordiale, et nous reviendrons sur sa définition, n'apparaît absolument pas le nom d'Israël. Voici donc quelle est la donnée de notre problème. Il y avait, on peut le dire même sous la forme du conte de fées, il était une fois une humanité une, cette unité a éclaté, et ce que la Bible appelle les nations, les goïm, dans le sens étymologique du mot goï en hébreu qui signifie une certaine manière d'être homme se définissant de façon particulière et particularisée comme une nation, et chaque nation est elle-même, elle est génialement elle-même, et elle est autre que l'autre, et chacune est autre que l'autre, et ce principe de la réciprocité dès la définition est important, nous y reviendrons. Eh bien, les nations sont le résultat de l'éclatement de l'unité humaine. Et parmi ces nations, selon le récit biblique, à l'origine, il n'y a pas une nation qui se nomme Israël. L'identité Israël va surgir, va émerger du dedans d'un récit que je reprendrai assez rapidement, mais qui commence avec l'histoire des Hébreux, l'histoire des patriarches hébreux, qui commence avec Abraham. Elle va surgir du dedans de l'ensemble des nations, mais non pas comme une parmi les 70 nations, j'expliquerai ce chiffre, issues, résultant de l'éclatement de l'unité humaine antébabélique, si j'ose dire. Et, parenthèse importante, ce qui fait que le récit de l'histoire des nations commence par la notion de la diaspora des nations. Nous, les Juifs, nous sommes habitués, par une familiarité de 2000 ans de l'histoire de la dispersion, de cette troisième dispersion, du troisième exil qui commence avec Rome. Il y en a eu deux préalablement, nous avons une longue histoire. Nous sommes devenus habitués à l'idée que la notion de diaspora, de dispersion, définit la normalité de l'être juif. Eh bien, selon le récit biblique, il nous faut corriger cette pseudo-évidence. La notion de diaspora, un terme anachronique pour le moment du récit, mais c'est le sens de la notion, s'attache, suivant le récit biblique, à la condition existentielle des nations. Ce sont les nations qui sont en diaspora de l'unité humaine perdue. Lorsque plus tard, pour les raisons et pour les occurrences que la Bible dévoilera bien plus tard, apparaît le phénomène de la diaspora d'Israël greffé sur la diaspora des nations, il s'agira d'un phénomène second. Mais le phénomène premier de la situation de diaspora définissant le drame existentiel des nations s'attache aux nations elles-mêmes. Comme il s'agit là de retrouver une notion non pas perdue, mais dont nous avions perdu la familiarité, je vais y insister un petit peu, d'ailleurs c'est déjà suffisamment fait, pour la remettre en évidence. Essayons de faire l'effort de penser, et il est nécessaire de le faire sans une fois plus que 100 fois, à tel point l'inertie de la familiarité risque d'être pesante, c'est que, selon le récit biblique, la notion de diaspora est connaturelle aux nations et non pas à Israël. Lorsqu'il arrive, encore une fois, que l'unité d'Israël éclate en dispersion, il s'agit d'une diaspora seconde greffée sur la diaspora des nations, avec simultanément finalité du retour et finalité messianique qui éclaire a posteriori la finalité première de la diaspora seconde d'Israël. J'espère que le vocabulaire est suffisamment clair. C'est l'épaisseur de durée de ces 2000 ans de diaspora qui, dans les derniers siècles seulement, a fini par faire apparaître cette pseudo-évidence qui est, semble-t-il, connaturelle à une très grande partie du peuple juif aujourd'hui, que la normalité serait l'être de dispersion pour Israël, alors que la Torah nous dévoile que c'est la normalité de l'être des Goïm. Que s'est-il passé dans cet épisode de la tour de Babel? Je vais lire pour cela, très rapidement, le premier verset du chapitre 11, qui suit donc l'énumération dans le chapitre 10 de l'identification des différentes familles humaines, la nomination des différentes familles humaines réunies dans l'universel humain antérieur à l'éclatement de Babel, vous l'avez au chapitre 10. C'est-à-dire le déploiement du génie humain à partir de la souche de l'humanité renouvelée après le déluge, Noach et sa famille, à travers les trois grandes lignées de Shem, Ham et Yafet, je le dirai en français, Sem, Ham, qu'on dit en français, Cham et Japhet. Et dans ces 70 noms, il n'y a pas le nom d'Israël. Nous aurons donc cela en mémoire. Il y a deux choses à éclairer. Les nations, les goïms, c'est le résultat de l'éclatement de l'unité humaine à Babel. Deuxièmement, parmi les Goïm, ne fait pas partie Israël. Il va être défini comme nation sur une autre modalité au moment où son émergence sera constituée comme peuple, comme collectivité, comme klal, am, ouma, nation. Je crois que c'est le terme français le plus approprié pour désigner ces deux réalités. La manière d'être homme chez les Goïm, la manière d'être homme Israël. La définition commune, c'est qu'il s'agit là et là d'une nation, les nations Israël. Et le verset nous dit ceci, « Vayi kol haaretz safa echat udvarim ahadim » Il était arrivé, il arriva, que la terre était langue unique, udvarim ahadim, et là nous avons un problème de traduction. Je vous donne d'abord la traduction classique, et paroles semblables. Langue unique et paroles semblables. Nous n'allons pas prendre trop de temps, il suffit de l'indiquer directement qu'il y a dans cette manière de traduire le verset quelque chose de l'ordre du pléonasme. S'il y a une langue unique, il est bien évident que les paroles sont semblables. Nous pouvions ouvrir des parenthèses d'exégèse pour indiquer la richesse de l'indication à ce niveau de traduction, mais ce niveau de traduction est quand même insuffisant. Je vous lirai très rapidement ce que le Talmud en dit. La référence se trouve dans le Talmud de Jérusalem, traité de Megillah, chapitre 1, halakha 9. Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. C'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Hadamar, lundi, chez Hayoum et Dabrim Beshivim Lachon, que il parlait les 70 langues, il au pluriel, mais Hadamar est lundi, chez Ayum et Abrim, Bilshon Yahidosh al-Alam, Bilshon Akodesh. Et l'autre dit qu'il parlait la langue de l'unique du monde, la langue de la sainteté, qu'on traduit en général en français la langue sainte, mais c'est un autre problème d'exégèse, la Shon Akodesh. Ce n'est pas la Shon Akdosha, ce n'est pas la langue sainte, c'est la langue dont l'objet est d'exprimer la sainteté. C'est en cela que secondement, elle est aussi sainte, mais le concept en hébreu est un peu différent, je referme la parenthèse. Ça signifie donc, d'après cette discussion dans le Talmud, que le verset signifie originellement, et il était arrivé, que la terre était langue unique, il y avait une langue universelle, Udvarim Ahadim, et paroles particulières Ahadim. Chaque famille humaine avait son langage, mais tout ensemble a disposer d'une langue unique. Et nous avons là, déjà, à deux niveaux importants que je vais signaler, la définition que la Bible nous donne de l'universel. Unité, mais dans cette unité, spécificité de chaque personnalité. Au niveau de la deuxième indication importante, c'est que le fait que la Torah ait choisi pour dire l'universel réel, l'universel concret, est au niveau de la langue, n'est pas sans signification. En effet, la définition selon la Torah de la spécificité de l'être homme est au niveau du langage. Dès les premiers récits de la Torah qui parlent de l'homme, l'homme est défini comme le vivant parlant. Hay Hamdaber. Ce qui définit de façon spécifique l'identité humaine parmi toutes les créatures est les plus proches de lui, les autres êtres vivants, c'est qu'il est le vivant parlant. Je voudrais ici une petite parenthèse d'ordre philosophique qui me semble assez importante. Il y a eu au Moyen-Âge une discussion entre les philosophes, entre eux, les théologiens entre eux, concernant la définition du caractère spécifique de l'identité humaine. Et deux formules nous sont proposées au temps de la philosophie du Moyen-Âge. Le vivant pensant ou le vivant parlant. La tendance dans l'univers philosophique général a été de sembler préférer la définition l'être pensant, le vivant pensant, en hébreu Haya Maskil, alors que la tradition juive a pour tendance principale d'avoir préféré la deuxième définition, le vivant parlant. Nous sommes assez familiers avec la première expression, la définition de l'homme, et c'est l'être pensant. Descartes disait « animal raisonnable, mais dans le sens philosophique de être animé, animal, être vivant, raisonnable, doué de raison, c'est-à-dire de penser. Je voudrais indiquer malgré tout l'importance de l'implication morale du choix que la théologie juive a fait en dominante de la deuxième formule. C'est que nous savons aujourd'hui que la pensée peut être impersonnelle, alors que le langage, lui, exprime la présence d'une personne. Et il y a là une implication morale extrêmement importante, et nous partons apparemment d'une remarque linguistique, mais nous débouchons en morale. Penser la spécificité de l'homme au niveau de la parole, c'est affirmer la valeur de la personne en tant que telle, le quelqu'un qui parle, alors qu'il s'agit bien d'un quelqu'un qui pense, mais au niveau de la pensée, le quelqu'un peut disparaître. C'est au niveau de la parole que le quelqu'un est exprimé. Je le dirai autrement, nous savons aujourd'hui qu'on peut construire des machines à penser. Et même si on donne à ces machines à penser la capacité de s'exprimer par un lingophone quelconque, aussi au niveau d'un son, il ne s'agit pas du tout de parole, mais d'un langage de signes et d'expression sonore de la pensée, ce qui n'a rien à voir avec la parole qui exprime le quelqu'un. Lorsque la tradition nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole et non pas par sa pensée, ça signifie aussi cela. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a créé le monde. Et je crois, petite parenthèse qui me semble importante, plus que par association d'idées, qu'il y aurait, ce serait une erreur de penser que la formule évangélique, en tout cas de type chrétienne, au commencement était le Verbe, est analogue à la formule rabbinique « Dieu a créé le monde par sa parole ». Parce que lorsqu'on réfléchit à la connotation du terme grec « logos », on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout évident que derrière ce logos il y ait quelqu'un, alors que dans la notion de parole en hébreu, il y a quelqu'un derrière. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais je referme la parenthèse. Pour détendre le sérieux du sujet, je dirais que selon le verset de la Bible, au commencement n'était pas le Verbe, mais l'adverbe. Au commencement, c'est un adverbe, c'est pas un verbe. Je referme la parenthèse. Et donc, le fait que la Bible indique l'unité humaine réelle, concrète, au niveau de la parole, montre qu'elle nous indique de façon très importante que l'information qu'elle nous transmet, c'est que selon elle, l'universel humain était réel. S'il y avait en langue unique, cela signifie que l'universel était réel. Et puis voilà que la révolte contre le principe d'unité met en congé cette unité. Il ne reste que les langages particuliers, d'où la confusion des langues. La manière classique, habituelle, dont on rend compte de ce récit biblique de la tour de Babel est difficilement compréhensible. On a l'habitude de l'indiquer ainsi. Les hommes parlaient la même langue, et puis subitement, ils se sont mis à parler des langues différentes, alors ils ne se sont plus compris. On pourrait peut-être rendre compte de cette manière de traduire l'information de la Bible à ce sujet, sous forme de midrash. Il a fallu beaucoup de temps, mais à partir d'une langue unique, finalement, en fin de compte, à la suite d'une évolution qui aurait duré X temps, les langues sont devenues différentes et on s'est habitué à ne plus se comprendre. Mais c'est parce que, à mon sens, le texte voulait dire. Il y avait simultanément langue unique et dialecte particulier. La langue de l'unité ayant disparu, il n'est resté que la langue des spécificités, alors on ne s'est plus compris. Je crois que là, le message de la Torah est beaucoup plus important pour notre sujet. Parce que cela vient renforcer et mettre d'autant en évidence la notion de l'universel propre à l'enseignement de la Bible, c'est-à-dire qu'il y a une unité réelle, mais l'enrichissement de la spécificité de chacun y est intégré. C'est dès l'origine le principe du drame qu'implique cette catégorie polémique dont j'avais parlé, Israël, les nations. En effet, tout se passe comme si. Depuis cette perte de l'universel à l'épisode de Babel, l'homme est travaillé par l'exigence de retrouver cet universel perdu. Le rêve de l'universel, l'idéal de l'universalisme, commence à ce moment-là. Donc, tout se passe comme si nous vivons depuis Babel un monde différent, du point de vue de notre sujet, que l'état du monde avant Babel. Avant Babel, l'homme se connaissait réellement, concrètement, dans la réalité, comme faisant partie d'une famille humaine une, et comme dans toutes les familles, chaque frère ayant le visage, ou chaque sœur ayant, parce qu'il y a des familles, il y a des nations masculines, des nations féminines. Ça m'a toujours frappé. Pourquoi dit-on la France, le Portugal? C'est peut-être une question de sémantique française, mais je crois qu'il y a derrière un problème plus que de sémantique. Problème d'identification de la manière d'être homme qui, à l'échelle nationale, se pense plutôt dans le mode féminin, plutôt dans le mode masculin, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, de même que dans une famille, il y a la différenciation des visages, mais il y a l'expérience de l'unité concrète, mais de même dans l'humanité, il y avait la participation existentielle au fait d'être homme commun à tous, tous les Bnei Adam étant des Bnei Adam, mais d'autre part, la spécificité géniale de chaque famille humaine pour elle-même. Et c'est déjà une expression qui est employée dans le récit biblique, les familles de la terre, pour dire les nations. Mais lorsque cette unité est perdue, il ne reste que la spécificité de la manière d'être nationale, je n'emploierai pas encore d'autres adjectifs, exclusive de chacun, ne participant plus à une universalité réelle, concrète, sinon au niveau des individus capables d'idéal, dans la perception d'un idéal de reconstruire cet universel perdu. À partir de Babel, l'universel n'est plus que dans les idées, il n'est plus que dans la réalité. Selon le récit biblique, va commencer l'histoire de ce que nous appelons, dans le langage traditionnel, les empires, les malchouyot. Je vais essayer de décrire très rapidement, en me basant sur l'enseignement du Maharal de Prague, qui est en particulier formulé dans le premier chapitre du livre qu'il a consacré à la fête de Hanouka et qui s'intitule « Ner Mitzvah ». Je renvoie donc les érudits à cette référence. Il y a, dans ce chapitre, l'étude très minutieuse d'une dizaine de références midrashiques et talmudiques concernant la description de la succession des grandes civilisations et résumée, récapitulée dans la symbolique, entre guillemets, du vocabulaire traditionnel, en quatre grands empires. De la même manière que dans cette symbolique, la multiplicité des nations est résumée dans le chiffre de base, dans le nombre de base de 70. Dans le vocabulaire traditionnel, 70, cela signifie la multiplicité au niveau des nations, des manières d'être homme. Toutes les nations existantes, elles sont innombrables, résultent de la combinaison, si j'ose dire, du résultat du mariage, plus ou moins mixte, entre ces différentes manières d'être qui sont les nations de base. Et je pense que c'est à un niveau anthropologique beaucoup plus concret que simplement les nations officielles dans le sens politique du terme. Par exemple, du point de vue de ce vocabulaire, en France, il y aurait quelques milliers de nations différentes, toutes françaises. Alors que pour le vocabulaire politique, il n'y a qu'une seule nation qui se nomme la France. C'est en ce sens que l'innombrable multiplicité des manières d'être homme est récapitulée dans le nombre de 70. Eh bien, on s'aperçoit qu'à tour de rôle, pour des raisons que l'historien peut établir de façon très minutieuse, des raisons d'évolution d'ordre économique, culturel, militaire, politique en général, une nation à tour de rôle va prendre dans l'histoire des hommes en charge ce rêve de l'universel et va-t-on tenter de le reconstruire. Mais on va s'apercevoir très rapidement que selon le récit biblique, il y a une sorte de fatalité d'échec qui fait basculer l'idéal de l'universalité dans la réalité de l'impérialisme. Il suffit de très rapidement de définir la différence de ces deux termes. Dans l'idéal universaliste, tel que je l'ai indiqué tout à l'heure, Il y a unité humaine concrète, absolue, elle a été perdue, elle reste en creux sous forme d'exigence de rêve, j'y reviendrai, mais elle était réelle, et puis chaque famille humaine a son rôle dans cet orchestre ou ce bouquet, pour prendre ces images, que représenterait une humanité une dans le sens biblique. Alors que dans ce que nous nommons, et nous en avons l'expérience, l'histoire des empires, l'impérialisme, eh bien, c'est une nation qui, alors qu'au point de départ du mouvement historique, elle se proposait de réaliser le rêve de l'universel reconstruit, finit dans la réalité par imposer sa manière d'être aux autres nations. Cela commence par une déclaration d'intention authentique, et je crois sans exception, nourri par la motivation sincère de ceux qui l'ont rêvé. Ça commence par une motivation de l'universel, mais immédiatement après, cela se réalise dans l'échec de l'Empire. Je n'en donnerai qu'un exemple symbolique, très symbolique, mais qui nous concerne. Immédiatement après la Révolution française, qui a exprimé dans le temps contemporain à l'échelle de l'universel humain, de la manière la plus directe et la plus énergique, les idéaux de l'universel. D'ailleurs, je crois que c'est l'année prochaine qu'il y aura le 200e centenaire de la Révolution française, et je suppose qu'un séminaire sera mis sur pied à ce sujet. Quelques années après, c'est l'Empire français. Est-ce qu'il y a là un humour de l'histoire, ou est-ce qu'il y a là, ce que je pense d'après le récit biblique lui-même, une fatalité sans exception? Il n'y a pas d'exemple dans toute l'histoire de l'humanité d'un programme universel, universaliste, qui n'échoue dans la réalité concrète, dans l'échec de l'impérialisme. Et nous sommes déjà au bord de la différence de ces deux catégories, universalisme et cosmopolitisme. Nous nous posons dans nos études la question de savoir pourquoi. Et la réponse que donne le Zohar est très précise. Je la formulerai non pas en termes du vocabulaire de la Kabbalah, mais en termes de vocabulaire de Midrash. C'est que chaque nation a emporté avec elle une face de l'identité humaine, où se recompose le visage de l'homme. Et, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour la sensibilité juive, je citerai tout à l'heure Ben Amozeg, mais parce que la formule qu'il a employé, que je vais citer immédiatement, est très suggestive, mais c'est une ligne d'enseignement qui traverse tout l'enseignement de notre tradition. Chaque manière d'être homme est géniale pour elle-même et irremplaçable. Eh bien, cependant, chaque manière d'être homme n'a emporté avec elle cet éclatement de l'unité humaine qu'une manière très particulière, très spécialisée d'être homme. Je crois qu'il est inutile de donner des exemples concrets, de dire qu'un Français, c'est un Français, un Allemand, c'est un Allemand, un Britannique, c'est un Britannique. Les mots, même abstraits, sont suffisamment clairs. On ne peut pas être deux manières d'être homme à la fois. C'est déjà l'échec du cosmopolitisme. Mais, en tout cas, le péril, j'y reviendrai, je ne voudrais pas que ça reste non compris. Je crois que c'est Malraux qui disait que lorsqu'on participe de deux cultures, on risque deux fois de perdre son âme. C'est bien lui qui disait cela, quelque chose d'analogue. Et l'image que donne le Zohar, les idéologues de la Révolution française, et ça commence chez les encyclopédies, et les Français. De l'identité française. Je crois que c'est quand même suffisamment clair. Pour nous,